cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 novembre 1992, à Saint-Jeudard.
Les premiers philosophes sont restés au devenir. devenir impliquent la matière. Tous les êtres qui sont en devenir sont matériels. Et moi-même, je suis en devenir matériel. Mais l'intelligence est capable, au-delà du devenir, de saisir ce qui est. Ceci est. Pas ceci devient, ceci est. Et elle interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Et à ce moment-là, elle veut. Elle dépasse le point de vue du devenir, le fait d'exister. Ses actions, après découvrir aussi, elle question quoi être. Est-ce qu'il y a un principe propre, matériel de l'être? Elle dit, c'est impossible, puisque ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est la substance. C'est déterminé. S'il y avait un principe propre, je prends l'hypothèse, s'il y avait un principe propre de l'être qui est la matière qui est capacité de devenir, capacité de changement, qui est indéterminée, vous diriez que ce qui est second est premier. Puisque toujours ce qui est capable d'être déterminé, ce qui est capable de changement n'est pas premier. C'est quelque chose de second, puisqu'il est capable de changer, il est relatif à la forme. La découverte de la matière, elle est relative à la forme. Si elle est relative à la forme, elle est seconde. Il n'y a donc pas de premier dans l'ordre matériel. Mais la découverte de la distinction matière et forme permet tout de suite de montrer que la matière est relative à quelque chose d'autre. Or, on cherche s'il y a un premier dans l'être au niveau matière. On dit non, la matière comme telle n'est jamais première dans l'ordre de l'être. La matière comme telle, au niveau de l'être, est toujours seconde. Pourquoi ? Parce qu'elle est indéterminée. Et que l'être, lui, est déterminé. Mais viens voir ce niveau de l'analyse, donc au niveau de l'intelligence, qui saisit ce qui est. Ce n'est pas au niveau de l'expérimentation du fait d'exister. Toutes les réalités que je vois, que je constate, sont matérielles. Je ne dis pas que la matière est non-être. Je dis que la matière est condition nécessaire de l'être physique, de l'être en devenir. Mais c'est le devenir qui s'explique par la matière. Ce n'est pas l'être. Alors ça, c'est une distinction, c'est une distinction absolument nécessaire à découvrir. La distinction entre le devenir et l'être. Et chacun d'entre nous, on doit refaire cette distinction. Hein, parce que si de fait, vous la répétez, vous ne la refaites pas. Hein. Ah oui, la philosophie grecque avait la distinction entre l'être et le devenir. Oui, mais c'est une vieille distinction, c'est fait maintenant, c'est terminé. Ça revient tout de suite. On est fondamentalement un être matériel. On est en connaturalité avec un être matériel. Et c'est pour ça quand on se pose la question, mais oui, la matière, oui, l'être est matériel. Puisque tout ce que je constate implique un être matériel. Mais autre chose est de dire que tous les êtres que je constate sont des êtres matériels. Autre chose de dire que la matière est principe propre de ce qui est, donc il est. C'est là où on voit ce que c'est que l'intelligence, hein, qui est capable de dépasser la constatation qui se fait par nos sens. Nos sens sont en connaturalité avec les êtres sensibles. C'est pour ça que les êtres sensibles ont toujours génétiquement la priorité. Et c'est pour ça que les l'esprit, ça met du temps à découvrir. Parce que c'est pas premier pour moi. Ce qui a été premier en moi, c'est la conception physique, biologique. J'ai d'abord été un être matériel. Parce que j'étais d'abord un être matériel, ah oui, on a la tentation de considérer, mais oui, que tout être est matériel. Puisque moi, j'étais d'abord un être matériel. Donc tous les autres sont comme moi. C'est important de bien voir la différence entre le jugement d'expérience, l'expérimentation que je peux faire, qui implique tout le temps la matière, et l'analyse philosophique, qui relève de l'intelligence, directement. C'est ce que me disait un physicien. Il fait cette constatation à propos des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Et puis je dis toujours à mes étudiants, c'était un physicien de l'université de Lausanne. Je dis toujours à mes étudiants, vous, en tant que physicien, vous êtes tout le temps à constater des êtres matériels. Et votre physique, votre science physique est-elle matérielle? Ça, ça les faisait réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas la matière qui scrute et qui donne la science physique. C'est parce que je pense. Et ma pensée est-elle propre à la matière? Ma pensée est tout de suite universelle. Il n'y a pas de science sans l'universalité. Donc la science témoigne qu'il n'y a pas de premier dans l'être qui a la cause matérielle. C'est ce qu'il faut dire aux positivistes. Vous êtes en contradiction avec vous-même tout le temps. Vous prenez la science et vous dites qu'il n'y a que la science. Alors la science n'est jamais première. Et elle existe. Et elle montre qu'il y a quelque chose de spirituel. L'universel. Vous savez bien, saint Thomas prend l'universel comme le signe de l'immatériel. C'est pour ça que c'est très important de toujours réfléchir qu'est-ce que c'est que l'universel. Alors, tout savant sait ce que c'est que l'universel. Il sait ce que c'est que loi. Tout homme politique sait ce que c'est que l'universel. Les lois. Héraclite, le premier qui dit le logos, la loi. Et on est arrivé à un degré de bêtise qui est extraordinaire. Les premiers grecs, 700 ans avant Jésus-Christ, avaient découvert que le devenir est distinct de l'être. Et on retombe. Et c'est au fond ça le suicide de l'humanité. Le jour où les hommes refusent l'esprit, ils se suicident. Parce qu'ils sont au niveau purement sensible. Ça, c'est. Le positivisme est très très enraciné en nous. Et je crois que. Et on sort du positivisme grâce à la philosophie. On en sort. Vous voyez, en tant que croyant, j'en sors tout de suite, parce que je crois que Dieu est esprit. Mais il faut pouvoir justifier sa foi en face des hommes et leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette prison terrible du positivisme. Alors, c'est pour ça que c'est bon de mettre toutes les objections, parce que c'est par les objections que nous voyons comment nous pouvons sortir. Deuxième question. Ne peut-on pas dire que je diffère d'autrui, non seulement par mon corps, mais par mon être? C'est sûr. En premier lieu, par mon être. Je suis. Et quand mon voisin dit « je suis », il ne dit pas « mon je suis ». Mon je suis, c'est ce qui me diffère le plus de mon voisin. Et l'autre, il dit je suis aussi. Alors comment ça se donnait des coups de poing métaphysiques à ce moment-là? Je te dis que ton je suis n'est pas mon je suis. Et on va voir lequel est plus solide. Est-ce que c'est mon je suis ou le tien? Différer d'autrui par le corps, c'est matériel. Je diffère de l'autre par mon être, c'est bien évident. Et par mon esprit, puisque je dis je suis. En disant je suis, je dis que je ne suis pas l'autre. Mon je suis porte en lui cette force. Alors, continuons. Car mon je suis est unique, voilà. Non seulement par la dimension corporelle du je, mais aussi par sa dimension spirituelle. Ou bien l'acte d'être est le même, mais les sujets différents. C'est le sujet qui est cause de l'individuation. Alors vous voyez, là encore, quand on dit que l'individuation vient de la matière, ça te va le dire, hein? Materia signata, donc une matière quantifiée. Il ne supprime absolument pas que la différence première est du côté de l'être, puisque c'est moi qui découvre ça. Alors, il suffit de comprendre ce qu'on veut dire quand on dit que l'individuation vient de la matière. La matière, là, existe. Donc, c'est la matière qui manifeste mon individuation, qui manifeste de façon visible que je suis autre que mon voisin, parce que je tiens une place. C'est pas au-dessus de là que je m'y mette. C'est visible, ça. C'est qu'au plan spirituel, vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous n'avez pas de lieu, tandis que là, vous localisez. Alors, il suffit de comprendre que l'individuation, dans ce qu'elle a d'ultime, c'est le corps individué, distinct de l'autre. Mais je suis tout à fait d'accord que l'individuation est premièrement dans l'être. Oui, c'est tout le problème de l'analogie. La diversité des êtres. La diaphora qui relève de la substance. Alors, autre question. Vous avez traité la semaine dernière de la question en quoi est l'être. Et tout ça, en quoi est l'être? Que répondrez-vous au père Teilhard de Chardin qui a cherché à dépasser la séparation entre matière et esprit? Citation de 1933. L'esprit étant compris, non pas comme une exclusion, mais comme une transformation ou sublimation ou un point culminant de la matière. Mais au moment où je suis en face de ce point culminant de la matière, je ne suis plus dans la matière, puisque je suis dans l'esprit. Et alors j'ai dit que tout est matière. Alors à ce moment-là, il y a tout simplement, au niveau de la matière, je crois, une signification tout autre. N'y a-t-il pas quelque chose de juste dans cette recherche de dépassement? Cette union esprit-matière n'est-elle pas atteinte dans le corps glorifié du Christ? Ne faudrait-il pas admettre alors, de façon ultime, une certaine métaphysique chrétienne? Oui, mais la seule ennui, c'est que je n'ai aucune expérience du corps glorieux. Si j'avais l'expérience du corps glorieux, et même le corps glorieux reste corps, et la matière n'est pas sublimée, elle est transformée, mais elle reste matière. C'est la première réponse que je dirais. La deuxième réponse, c'est que j'ai pas l'expérience du corps glorieux. Je le saisis par la foi. Or, la foi n'est pas mon intelligence. Elle permet à l'intelligence d'aller plus loin. Mais ma philosophie, c'est au niveau de mon expérience humaine et de ce que mon intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre. Et l'erreur foncière que le théologien peut dire par rapport à Hegel, c'est qu'il confond être et grâce. Pour lui, l'être premier qu'il saisit, c'est la grâce. Alors, une fois que je comprends ça, tout l'hégélianisme peut se comprendre. Mais ce n'est pas la doctrine de l'Église. L'Église ne confond pas. Il y a une grande thèse théologique de Jean de Saint-Thomas qui est très belle et qui voudrait reprendre du reste en face de Hegel. Peut-on penser une grâce substantielle? C'est pas bête. Autrement dit, peut-on penser la philosophie hegelienne? Une grâce substantielle. Et Jean Saint-Thomas montre que c'est impossible et contradictoire. S'il y a une grâce substantielle, je suis Dieu. C'est du reste ce qu'on aboutit dans la philosophie hegelienne ou dans la théologie hegelienne, je suis Dieu. Et il a beaucoup de peine de montrer que je ne suis pas Dieu. Parce qu'il est croyant. Donc il réintroduit la foi pour dire je ne suis pas Dieu. Mais intellectuellement, pratiquement, sa philosophie, sa théologie, c'est de considérer que la grâce est substantielle puisqu'elle est première. L'être est absorbé par la grâce. L'être est transformé par la grâce. Donc je suis en face de cette conception d'une grâce substantielle. Or, la grâce substantielle, c'est Dieu. Puisque la grâce est une participation formelle à la nature de Dieu. Si je ne vois plus participation, je suis donc en face de la grâce comme un être substantiel, premier. Qui dit substance dit quelque chose de premier. Alors, que répondre à Teilhard, notre cher Teilhard? Je n'ai jamais constaté que la matière devienne esprit. Pas encore. Je sais bien que je suis encore très en retard par rapport à l'évolution de la matière qui doit devenir esprit. Ma constatation de toute réalité physique, de toute œuvre d'art, implique la distinction de la matière et de la forme. Première distinction. Et je reviens toujours à ça, à la distinction matière et forme. À partir de l'œuvre d'art. Et cette distinction matière et forme, analogiquement, se retrouve entre âme spirituelle et corps. L'âme spirituelle atteint l'universel. Le corps est individué et reste quelque chose d'individué qui ne peut pas être universel. Il faudrait une transformation substantielle de la matière qui ne serait plus matière. Vous voyez, une conversion analogue à la transsubstantiation entre la matière et l'esprit. La transsubstantiation, c'est le passage, la conversion totale, substantielle de la substance du corps substance de la matière pain, la substance du pain et du vin dans le corps du Christ. Vous voyez, c'est très curieux, le mystère de l'Eucharistie pris comme ce qui est au cœur de toute la chrétienté, de toute la foi chrétienne, va expliquer le monde entier. Va expliquer les rapports entre l'esprit et la matière. Alors la matière est transsubstanciée en l'esprit. Le corps du Christ n'est pas, c'est pas une transsubstantiation de la matière. Le corps du Christ reste matière. Le Père Théard part d'une matière divine. La matière est divine pour lui. Je n'ai pas encore constaté, moi. La matière est divine. C'est vrai pour le corps du Christ. Je suis au plan surnaturel. Au plan humain, je peux. Corps glorieux du Christ, je ne le connais pas, au point de vue philosophique. Mais je peux écouter un croyant qui me parle du corps glorieux du Christ. Et je peux dire, c'est pas contradictoire. Si la toute-puissance de Dieu est là, et qui est infinie, elle peut unir la matière et l'esprit. Parce que Dieu unit la matière et l'esprit. Mais la matière et l'esprit est unis dans la sagesse divine. Dieu est auteur de l'esprit et Dieu est auteur de la matière. Donc en Dieu, la matière et l'esprit font un. Si donc je confonds théologie et philosophie, je dirais que la matière peut être esprit, puisque en Dieu elle est esprit. C'est la confusion de l'analyse philosophique et de ma foi chrétienne. On retrouve dans Théard l'erreur fondamentale de Hegel, ou la confusion fondamentale de Hegel, de considérer que l'ordre surnaturel saisi par la foi, c'est la réalité. C'est vrai que c'est la réalité, mais c'est une réalité qui présuppose la création. Vous voyez, ce qui est le plus admirable dans la doctrine chrétienne, dans le mystère du Christ, c'est que Jésus est le nouvel Adam qui ne supprime pas le premier Adam. Tandis que dans la position de Théard et dans la position de Hegel, là, ils se touchent. Le nouvel Adam supprime l'ancien. Va te coucher. Plus besoin d'exister. Le nouvel Adam remplace tout. Et la nouvelle Ève remplace tout. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le Fils bien-aimé, qui vient nous racheter, respecte l'œuvre du Père, l'œuvre de la création. Dans la position hegelienne, comme dans la position de Théard, il y a un manque complet de la création. Comme si la grâce supprimait la nature, la volatilisait. Alors la grâce ne supprime pas la nature. La grâce ne supprime pas, donc le mystère de la rédemption ne supprime pas le mystère de la création. Mais là, je suis en théologie, hein, pas en philosophie. Mais en philosophie, je peux écouter le croyant qui me dit la doctrine catholique, celle admise par l'Église. Autrement, je tombe dans des gnoses. C'est une gnose. D'ailleurs, parce que la distinction élémentaire que Jésus lui-même nous dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit ça à Nicodème. Et Théard dit, et ce qui est né de la chair deviendra né de l'esprit. Avec un peu de temps. Donc c'est contraire à ce discours théologique fondamental auquel discours théologique doit se ramener. Le discours de Jésus à Nicodème. C'est la leçon de théologie première. Et toute leçon de théologie première respecte cette première leçon de théologie. C'est Jésus théologien face à un théologien. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Que dit Théa ? Ce qui est né de la chair deviendra esprit. Alors continuons. Mais voyez, c'est très très important, ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important d'arriver intellectuellement à comprendre que l'interrogation en quoi l'être est une interrogation sans issue. Il n'y a pas de premier dans la cause matérielle. La cause matérielle n'intervient en philosophie que par la vie et le devenir. Et les confusions entre le point de vue du devenir et de l'être proviennent toujours du vivant, parce que le vivant fait la synthèse entre l'aspect substantiel et l'aspect devenir. La vie comme telle implique quelque chose de substantiel et implique un devenir. La vie au niveau biologique, au niveau humain. Et c'est pour ça que les confusions se font. Oui. Ça, c'est toute la philosophie du vivant. Tandis, mais c'est pour ça que si on n'a pas fait la première distinction entre être et devenir, on ne peut plus comprendre ce que c'est que le vivant. Parce que le vivant implique quelque chose de substantiel, l'âme, et implique une certaine croissance, un certain devenir. Seconde affirmation, je crois qu'il n'y a pas de question là-dessus, il n'y a pas de premier dans l'ordre de la cause efficiente. Il n'y a pas, du moins de premier, il n'y a pas de cause propre de ce qui est en tant qu'être dans la cause efficiente. C'est assez rude à bien le saisir, mais c'est très important. Oui, mais alors, la différence, c'est que dans la matière, vous ne rattrapez pas la cause ultime de la matière. Parce que vous dites, il y a une cause ultime de l'efficience, le créateur. Dieu comme créateur est cause efficiente. Est-ce que Dieu comme créateur est cause matérielle? C'est intéressant de se poser la question, parce que ça montre tout de suite la différence entre la recherche de la cause matérielle, la cause selon la matière et la cause selon l'efficience. Et vous récupérez, si j'ose dire, vous récupérez la cause efficiente dans la création. Et vous dites, Dieu est cause ultime comme créateur. Il est cause efficiente ultime de tout ce qui est. Tandis que je ne dis pas, je ne peux pas dire que Dieu comme créateur est cause matérielle de toute cette physique. Oui, alors c'est le statut très particulier de la matière. La matière, en tant qu'elle existe, est créée par Dieu. Mais la matière, comme cause matérielle, n'est pas directement créée par Dieu. Elle est concrète. Dieu ne cause pas directement la matière. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Ça montre que tout le problème de l'évolution, ben oui, est autre que le problème de la création. et que l'évolution ne peut pas atteindre la création. C'est deux choses différentes. L'évolution est au niveau de la cause matérielle. Ça, c'est sûr. S'il n'y avait pas de cause matérielle, il n'y aurait pas d'évolution. C'est parce que le vivant implique la matière qu'il pourrait y avoir évolution. Qui porte en lui une potentialité, une virtualité qui pourrait se changer sous l'action de tel ou tel rayon particulier, sous l'action de telle ou telle causalité. Donc, c'est par la cause matérielle que l'évolution est possible. Pas métaphysiquement contradictoire. Elle est possible. Faut voir si convenience ou non-convenience, c'est autre chose. Mais elle n'est pas métaphysiquement impossible. À cause de la cause matérielle. Parce que Dieu a causé la matière par la forme. Dieu cause des êtres qui existent en tant qu'ils sont créés par Dieu. Or, la cause matérielle n'existe que par la forme. Donc, c'est par la forme que Dieu crée la matière. Il n'a pas créé un monde matériel comme c'était la cause matérielle. Oui. Il a ordonné ce monde matériel. Donc, il faut bien voir la différence entre la relation cause matérielle et créateur, cause efficiente et créateur. Mais bien voir entre les deux ce que nous disions, la cause propre. Distinguez bien cause propre, cause ultime ou cause première. Je peux parler d'une cause ultime selon l'efficience. C'est Dieu créateur. Tandis qu'il n'y a pas de cause propre de ce qui est en tant qu'il est. Selon la cause efficiente. Alors, y a-t-il une cause ultime première selon la matière ? Posez-vous la question. La matière, comme telle, la cause matérielle, est toujours une cause seconde. Au niveau métaphysique, il n'y a à la recherche que de deux causalités. La causalité selon la forme, la causalité selon la fin. Il faut que cela se soit évident pour vous. Il faut gratter un peu pour que ça devienne évident. Parce que ça devient, c'est pas tout de suite évident. Mais c'est intéressant de voir que Aristote dit ça et saint Thomas le reprend. Et que c'est toute la structure de la métaphysique. Marquignac, je n'atteins l'analyse de ce qui est comme être que par la cause formelle, la cause selon la forme et la cause selon la fin. Donc, la métaphysique, c'est la science la plus simple qui soit. Puisque je n'atteins que selon deux causalités. C'est bien plus simple que la philosophie de la nature, que la philosophie matière. Et c'est plus simple que l'éthique. C'est la noblesse de la métaphysique de n'avoir que ces deux causalités. Alors je me pose la question, quelle est la cause finale, la cause en vue de quoi ce qui est est. Et je vois que cela a été découvert en premier lieu par Aristote. L'être en acte. Heidegger, c'est intéressant comme témoignage, Heidegger reconnaît que le sommet de la philosophie grecque, c'est la découverte de l'entelecheia, faite par Aristote. Là, il donne un coup de chapeau à Aristote. Le point de départ de la philosophie grecque pour Heidegger, c'est Parménide. C'est l'être. Et le sommet, c'est l'entelecheia. Parce que Aristote a inventé un mot lorsqu'il a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la cause selon la fin de ce qui est. Comme il a inventé un mot, c'est très curieux, mais ça n'a inventé que deux mots. Comme philosophe. Un, pour la découverte de la substance. L'autre, pour la découverte de l'être en acte. Et ça me semble extrêmement intéressant. Parce qu'il veut montrer le métaxu par lequel je peux découvrir la substance et je peux découvrir l'être en acte. Et c'est pour ça, pour mettre en pleine lumière ce métaxu, il a inventé un mot, entelecheia. En latin, quod, quid, dépassement de l'acuité me permet de saisir l'ousia. Parce que Platon a fait la confusion entre cuidité et ousia. Donc, pour pouvoir dépasser Platon, il faut montrer le lieu propre où Platon fait cette confusion. Donc, cette confusion se fait entre ousia et cuidité. La cuidité, c'est l'intelligibilité radicale de tout ce qui est. Tout ce qui est a son intelligibilité, sa signification. Et l'intelligibilité de la réalité, ce n'est pas sa substance. La substance est plus, puisqu'elle n'est pas seulement principe d'intelligibilité, mais les principes d'être. Mais c'est vrai que ce qui est principe d'être est principe d'intelligibilité. La substance est quidité, mais la quidité n'est pas la substance. Toujours, quand vous comparez deux termes très proches, comparez-les toujours du côté de l'extension, c'est plus facile. Toute substance a une quidité. Mais toute quidité n'a pas une substance. La preuve, c'est que vous parlez de la quidité, de la qualité. La quidité de la forme. Et la forme n'est pas toujours substance. Donc la quidité, c'est l'être déterminé face à l'intelligence. Et l'entelekeia me conduit à energeia. C'est-à-dire l'être en acte. Je confonds très facilement l'être en acte et le bonheur, du point de vue humain. L'entelekeia, c'est le bonheur. Quand je suis dans ma faim, je suis heureux. Mais la possession de la faim, ce n'est pas la faim. L'energeia, c'est l'être en acte, c'est le bien. C'est le bien qui me finalise. Et le bien qui me finalise, en me finalisant, je suis dans ma faim. Entelekeia. L'ayant de la faim. Vous voyez, alors, c'est très intéressant à voir ces deux expressions qui sont toutes les deux ce qui me permet de faire le dépassement dans une voie inductive. La voie inductive pour saisir la substance, c'est la comparaison de pierre et homme. Homme, quidité de pierre. La comparaison de pour saisir l'être en acte, c'est de saisir celui qui est en possession de sa faim et la faim elle-même. Autrement dit, la différence entre l'amour d'amitié de l'ami et l'ami. L'amour d'amitié de l'ami pour son ami, entelekeia. L'ami, energeia. Alors, Aristote, là, il faut bien le reconnaître. Aristote est le premier d'avoir découvert la finalité de l'être. L'être est fin. Chez Platon, on touche la finalité, mais du côté de l'entelekeia. Alors, Platon n'a pas le mot entelekeia, quoiqu'il a quelque chose de très très proche. Mais c'est l'intelligibilité de la fin. Ce n'est pas la fin comme telle. Ce n'est pas ce qui m'attire. La fin, c'est ce qui m'attire. Le bien, c'est ce qui m'attire. C'est une confusion qu'on fait constamment dans la vie. et je détruis l'amour d'amitié. Donc, cette question, qu'est-ce que c'est que la fin de ce qui est en tant qu'être ? Aristote découvre, après Aristote, disparaît. Et si saint Thomas est revenu à Aristote, c'est à cause de ça. Parce qu'Aristote est le seul philosophe de l'Antiquité qui a vraiment saisi l'être en acte. Qui a donc découvert la vraie finalité au niveau métaphysique. J'en suis sûr. Parce qu'on se demande pourquoi saint Thomas a-t-il voulu revenir à Aristote ? Mais il a senti qu'il y avait dans Aristote quelque chose que Avicenne n'avait pas saisi. Avicenne, si grand qu'il soit, n'a pas saisi ça. Le poids du néoplatonisme en Avicenne est tel qu'Avicenne n'a pas saisi exactement ce que c'est que l'être en acte. Il a confondu entelecheia et energeia. Comme on confond quidité et substance.
Substantiel, il n'y a rien de changé. C'est curieux, ça.
deux états différents. Et deux états qui touchent quelque chose de radical. Parce que quand vous dites monsieur dort ou monsieur est éveillé, hein, c'est pas la même chose. Il dort. Donc il est absent pour vous. Il est éveillé, il peut être présent pour vous. Au niveau de la présence,